L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Bonjour Edwige Coupez.
Bonjour Christophe Maury.
Votre voix nous est familière car vous avez été journaliste et chroniqueuse à France Info pendant une quinzaine d'années. Aujourd'hui, vous créez des podcasts, vous êtes conférencière, vous enseignez aussi à Sciences Po et vous êtes ici pour nous parler de votre premier roman publié aux éditions du Rocher. Le titre, J'avais oublié la légèreté. La couverture, une jeune fille en tenue estivale de trois quarts et une main dans sa longue et épaisse chevelure. Ce livre est absolument salutaire, il faut le dire. Parce que vous avez peut-être oublié la légèreté, mais on la retrouve à la dernière page et on se dit que finalement, on peut traverser des épreuves et les épreuves d'une maman. Alors Léa, elle a 40 ans, elle est divorcée, elle ne parle pas de son ex, ça c'était quand elle avait 15 ans, mais du père de ses filles, elle a trouvé un compagnon, Simon, et puis elle a deux filles, Gabrielle, qui est née le 7 juillet 2007, et puis Lola. Et un jour, Gabrielle fugue. Nous sommes le 27 novembre 2021, une date qui vous colle à la peau. Écrivez-vous, et là, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, à cette date-là, effectivement, Gabrielle fugue. Gabrielle part de chez son père en laissant une lettre.
Et pleine de fautes d'orthographe.
Alors ça, c'est le...
Parce que vous la citez deux fois, la lettre, hein, dans votre roman.
Et effectivement, et en fait, je me suis amusée parce que je me suis dit qu'il y avait un tel décalage, en fait. Mais voilà, c'est ce que Léa retient, en fait. Je pense qu'elle est, elle
Léa,
est tellement
sa petite
sous...
Sœur, hein.
Léa, non, Léa...
Non,
alors,
la mère,
c'est Lola,
pardon.
Qui,
c'est Lola, la
pour reprendre,
sœur.
En fait, voilà, Lola, la petite sœur de Gabrielle, trouve cette lettre et appelle tout de suite Léa, sa maman, en lui disant, voilà, Gabrielle est partie, je vous l'avais dit... Et Léa vient chercher cette lettre, puisque c'est espace au domicile du père. Et lorsque Léa lit la lettre, au-delà des mots, en fait, au-delà de la stupeur et du choc d'apprendre que sa fille vient de partir, je pense qu'au-delà de mesurer en fait, l'étendue de ce que cela représente, une fugue d'une adolescente, elle voit les fautes d'orthographe. Et ça la choque, et elle retient que ça, en fait, sur le moment, bien sûr.
Je vous cite. « Il y a mille et une raisons de fuguer. » Parce que tu ne t'entends plus avec tes parents, parce que tu t'es disputé avec eux, parce que tu ne supportes plus d'obéir à leurs règles, parce que tu en as marre de mettre la table, faire tes devoirs, débarrasser les assiettes, te laver les dents, prendre ta douche, mettre tes chaussettes au sale, parce que tu ne veux faire ce que tu veux quand tu veux, parce que tu n'en peux plus te réveiller à 6h40 pour aller au lycée, parce que tu te crois plus forte que tout le monde, parce que tu ne veux pas finir comme ces vieux cons, parce qu'ils n'ont rien compris, parce que tu rêves d'aventure, parce que tu veux vivre seule dans la forêt, parce que tu es amoureuse, parce qu'un garçon t'a dit chiche et que tu ne veux pas le décevoir, parce que tu trouves ta vie nulle, parce que c'est mieux dans les séries et les films, parce que tu es tout le temps triste, parce que tu en as marre qu'ils s'inquiètent, parce que tu as envie de mourir seule dans un coin, parce que tu veux fumer dans ton lit, parce que tu as envie de rester sous ta couette toute la journée sans qu'ils viennent 10 fois demander si ça va, parce que tu ne sais plus comment faire pour qu'ils soient fiers de toi. Parce que tu lis de la déception dans leurs yeux quand ils te regardent, parce que tu feras jamais aussi bien qu'eux, parce que tu es grosse et moche, parce que tu en as rien à foutre de passer ton bac, parce que tu veux fuir le chemin tout tracé, parce que tu aspires à plus, parce que tu es formidable, parce que tu veux être riche, parce que tu veux vivre au Brésil et vendre des cocktails à Ipanema, parce que ils préfèrent ta petite sœur, parce que tu dois manger 5 fruits et légumes par jour, parce que tu veux te démonter la tête à la vodka, parce que tu veux oublier tes souffrances, parce que tu veux que ton cerveau arrête de penser, parce que tu n'en peux plus de vouloir te taper la tête contre les murs, parce que tu veux aller en soirée électro dans les catacombes et qu'ils vont encore dire non. Voilà des raisons de fuguer.
Il y en a plein, hein.
et ça fait écho aux dernières pages sur les raisons d'aimer. On en parlera tout à l'heure.
C'est quelque chose que j'ai pris plusieurs fois comme parti pris dans le roman, effectivement, ces listes d'énumération.
Vous êtes une femme de checklist.
Alors, non, parce que quand je faisais la chronique « Prenez soin de vous » sur une autre radio que vous avez citée tout à l'heure, je n'aimais pas, justement, et je disais qu'il ne fallait pas faire de to-do list. Donc, non, je ne suis pas une femme de checklist. Mais là, en l'occurrence, et c'était très émouvant de vous entendre lire le texte, parce qu'en fait, vous avez une autre intonation, vous y mettez une autre manière de l'entendre. Et donc, du coup, c'était assez émouvant de vous entendre lire ces mille et une raisons de fuguer, dans laquelle, je crois, on se retrouve tous, en fait.
Je vais vous émouvoir encore, parce que je vais lire d'autres passages.
Mince. Je vais finir par pleurer. Mais c'est assez joli de... Je suis heureuse d'avoir donné ce manuscrit, en fait, parce que à partir du moment, et c'est nouveau pour moi, puisque, en fait, c'est une première fois, c'est ça. Et en fait, ces mots, ce livre, ce texte ne m'appartiennent plus.
Ah non, c'est comme les bébés.
Voilà. Alors, c'est pas tout à fait comme les bébés, parce que ça reste un peu les bébés quand même, on s'en occupe un peu longtemps. Mais là, en fait, il prend vie autrement. Et je vous remercie parce que c'est
j'espère qu'il ne va pas vous faire de crise. Au ministère de l'Intérieur, on sait qu'il y a 43 870 disparitions de mineurs en France en 2021 et que dans plus de 42 000 cas, il s'agissait de simples fugues qui ne donnent pas lieu à de poursuites policières ou judiciaires. Pour les 922 autres, la disparition a été qualifiée d'inquiétante. Alors vous, la mère Léa, arrive au commissariat pour dire « ma fille a fugué ». C'est absolument pas pris en considération.
C'est effectivement, j'ai raconté cette scène. Le roman s'ouvre par une scène au commissariat où Léa, donc après avoir été récupérée cette fameuse lettre de Gabriel chez le père de ses filles que Lola lui a donnée, Léa part au commissariat et déclare la fugue de sa fille. Et elle se heurte à un policier qui. Comprend sans comprendre, en fait, il est là, il est procédurier, donc il prend cette déposition et en fait, c'est un moment de cauchemar pour Léa parce qu'elle est obligée de répéter, de répéter, de répéter encore et le policier note et tape d'un doigt et en fait, c'est une scène qui montre la froideur des institutions et Léa, en fait, se heurte à ça et ensuite, elle se heurte à un système qui a sa logique, qui n'est pas sa logique de mère, parce qu'elle voudrait que, comme dans les séries, tout de suite, il y ait le gyrophare et que tout le monde parte, parce que et pour elle, c'est une urgence absolue. En fait, pour elle, sa fille va dormir dehors. C'est pas possible, c'est inenvisageable. Elle s'aperçoit vers 20h de la fugue de sa fille. Et donc, pour elle, tout doit être mis en place, et elle ne comprend pas que ça ne soit pas fait. Et en fait, elle se heurte à... Le policier lui dit oui, bon, en gros, voilà. C'est peut-être pas de la négligence, on va pas aller jusque-là, mais en gros, c'est le scepticisme. Il lui dit oui, bon, en gros, elle est allée chez une copine, c'est pas grave. Il faudra attendre 24 heures, ou 12 heures, en tout cas, le lendemain matin, pour que quelque chose se déclenche enfin.
Et au moins qu'il y ait de l'empathie, et au moins qu'il y ait une compréhension du malaise de la jeunesse. C'est général, mais peut-être de cette génération. Je vous cite encore. Elle part au plus pressé et fait taire ses propres angoisses. La situation catastrophique de la pédopsychiatrie en France, l'épidémie silencieuse de santé mentale, les suicides et les dépressions en constante augmentation, surtout chez les filles. Elle les comprend en même temps. Comment se projeter ? Comment avoir envie d'étudier, de fonder une famille, quand on vous annonce le réchauffement de la planète et la fin du monde ? C'est quand même assez en cinq lignes. Vous avez dressé vraiment le portrait d'une génération parce qu'ils sont très mal à l'aise.
Tout à fait. Et c'est vraiment cette génération post-Covid. Et je l'ai vu à travers mes propres enfants. Je l'ai vu à travers les amis de mes enfants et à travers des témoignages de parents que j'ai pu noter. Et en fait, c'est effectivement le portrait de cette génération post-Covid. Je pense vraiment que le Covid a eu des effets tout à fait néfastes et à long terme et dont on ne mesure pas encore tout à fait toutes les conséquences sur cette génération. Bien sûr, il y a les réseaux sociaux aussi qui amplifient des phénomènes de mode, comme la mode de la scarification qui est presque un rite initiatique où de plus en plus les jeunes filles y vont et elles se heurtent à quelque chose, elles ne savent pas comment l'exprimer, ce monde en fait qui est un monde d'incertitude, un monde d'angoisse et comment grandir et comment se projeter là-dedans et on est face à un mal-être générationnel, tout à fait.
J'avais oublié la légèreté, Edwige Coupès, votre roman doit être lu d'abord par les filles pour qu'elles se rendent compte des angoisses des mamans et des mamans qui peut-être savent certaines choses pour pouvoir peut-être prévenir. En tout cas, Gabrielle s'en va, alors elle a fait quelques courses, elle a son sac à dos, elle a un hamac, et puis dans les oreilles, elle a ça.
He called me again, drunk in the Benz, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you. I don't relate to you, no, 'cause I'd never treat me this shitty.
la leçon n'était pas tout à fait là, parce que c'est archi protégé, c'est Billie Eilish, ah, Pierre, Dan Ever. Voilà ce que Gabrielle écoute dans son casque quand elle fugue. Mais en préparant notre entretien, j'ai écouté ça en boucle, et Billie Eilish est géniale. Elle ne pense pas faire une fugue. Elle part, c'est tout, écrivez-vous. On entend la révolte et puis en même temps la solitude de Gabrielle fugant. C'est toute l'énergie de l'adolescence et vous la partagez, toute mère que vous êtes, cette énergie de l'adolescence. Vous la comprenez ?
Je la comprends parce que, en fait, dans ce livre, je pense que ça parle autant aux adolescents qu'à l'adolescence des mères. Parce mais que oui. Les mères aussi ont été adolescentes. Et en fait, Léa, dans cette fugue, il y a une part d'elle-même qui la ramène totalement à ce qu'elle a été, elle, adolescente, qu'elle n'a pas été du tout la même adolescente. Je décris Léa comme une adolescente plutôt sage et plutôt timide. Et Léa a une part d'admiration.
Oui, mais déjà, elle n'avait pas de portable.
Alors, ça ne fait peut-être pas tout, je ne sais pas, mais c'est vrai, il n'y avait pas de portable. Et donc, ce livre, il y a deux chemins qui se croisent, il y a deux femmes qui essayent de se construire. Il y a Léa qui a laissé une partie de sa vie, qui se reconstruit avec un autre compagnon. Je décris Léa qui va vers la méditation, vers le yoga. Et en fait, Léa réfléchit à ce qu'elle est, à une femme d'une quarantaine d'années, qui veut aller vers autre chose.
Nouvelle transformation.
Exactement, et cette transformation se croise avec la propre transformation sa fille. Et donc, en fait, ce livre raconte deux femmes qui essayent de se trouver et de se révéler.
La séparation des parents est très importante sur le psychisme de la fille fugueuse, et pour autant, la vie de Léa importe. Je vous cite, plus de courses à faire, des repassages à repasser, du linge à étendre, des draps à plier, de leçons à réciter, de Navigo à recharger, de bâtons de colle à racheter, de temps d'écran à contrôler, de notes à vérifier, des soirées à autoriser, à croire que divorcer est la seule solution à la charge mentale. On sent une espèce de libération de Léa, disant... Voilà, c'est pas moi qui vais recharger le pass Navigo.
Une semaine sur deux.
Une semaine sur deux.
Et oui, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont beaucoup aimé cette phrase, à croire que la séparation est la seule solution à la charge mentale. C'est. oui.
Et là, il y a aussi le vieillissement. Je vous cite encore. Dans quelques années, je pourrais me faire une teinture bleue sans avoir à les décolorer. Mais sa fougue me fait basculer dans un rôle auquel je ne m'étais pas préparé. Je ne suis plus la mère modèle, aimante, présente. Je suis la vieille conne qui fait chier. Bien pire que quelques cheveux blancs. C'est terrible, ça.
C'est terrible, mais je pense qu'il y a énormément de mères qui ressentent ça à la fougue de leurs propres enfants. Et ce que Léa décrit, c'est ça. C'est dans ce livre, j'ai voulu mettre toute l'interrogation, tous les doutes, toute la culpabilité, toute cette incertitude des mères face à un enfant qui se construit. Comment être là? Comment être présent? Comment ne pas enfermer? Comment supporter sans être dans l'injonction, voilà un petit peu tout ça. Et dans ce livre, c'est le point de vue de la mère. Ça, c'est important de le dire. On est parfois avec Gabrielle. Le livre est raconté à la première personne. C'est Léa qui raconte comment elle traverse cette épreuve de la vie. On a parfois des points de vue de Gabrielle, de Lola, la petite sœur, de Simon, le compagnon, de la psychiatre à un moment. Mais ces passages sont racontés à la troisième personne du singulier.
Oui, on suit Gabrielle dans les catacombes, par exemple.
Mais vraiment, dans ce roman, on est avec Léa à la première personne et... ce roman a une part autobiographique, mais le plus important, au-delà des faits, savoir ce qui est vrai ou pas vrai, peu importe, au-delà de ça, ce qui est vrai et authentique, c'est que je l'ai écrit avec mes ressentis de mère. Et ça, j'y ai mis toute ma force, en fait.
Ressentis de mère et aussi ressentis de jeune fille. C'est-à-dire qu'on a vraiment le verre à moitié vide et à moitié plein. Gabrielle est formidable, mais dans son adolescence, comme un premier bourgeon de printemps, c'est poisseux, c'est prometteur. Et sa mère veut tout et donne tout et regrette avec le temps que des envies, fussent des erreurs. Elle a tout fait très bien. Elle a tout fait trop bien.
C'est le malheur c'est le syndrome de la mère parfaite qui veut un enfant parfait. Et qui s'aperçoit qu'elle s'est complètement plantée. Parce qu'à force de vouloir le bien de sa fille, en fait, elle l'a étouffée. Et puis, elle a pas écouté.
Elle fait du cheval, du judo, du karaté, mais ça dure juste un an.
Effectivement, vous avez raison, il y a plein de listes, en fait, dans ce livre.
Oui. Ah oui.
C'est vrai, en fait.
Alors, vous écrivez « Moi, je suis la mère qui raconte sa fille et se raconte en même temps ». Aurais-je la force d'aller jusqu'au bout? Je n'ai pas le choix. Mon corps le crie. Renoncer n'est pas une option. Et là, vous partez dans l'écriture du livre. Il faut aller vraiment jusqu'au bout du livre, jusqu'au bout de vous-même, à la fois pour retrouver Gabriel, mais pour vous retrouver vous-même.
Exactement. C'est un livre catharsis. C'est un livre que j'ai dû écrire pour apaiser une histoire traumatique. Ce qui est très chouette, et ça, c'est les hasards de la création, c'est qu'en fait, certains textes pourraient tenir de l'ordre du journal intime d'Edwige Coupez et se sont transformés en fait en la complainte de Léa. Personnage de ce livre et ce texte en particulier que vous venez de citer, c'était pas Léa qui l'écrivait au début. Et mon éditeur, quand il l'a lu, puisque j'ai eu un éditeur et une éditrice, m'a dit mais en fait c'est évident que c'est Léa qui écrit ça. Et j'ai trouvé ça magique parce que l'histoire c'est un peu créée toute seule aussi. Et ça, c'est absolument la magie du roman et de la création que j'ai découvert. Et voilà, c'est...
Alors, c'est un livre épatant de féminité, de maternité, de filiation. Enfin, les hommes, ils ne sont pas vraiment là. Il y a le père des enfants. S'il va quand même intervenir, il va envoyer des textos, il va aller à l'hôpital aussi, dans l'unité pédopsychiatrique. Mais enfin, il est là un peu comme une ombre. Simon, bah, il aimerait bien souffler un peu, donc il s'en va aussi. Et finalement, c'est Wonder Woman.
Alors, c'est pas Wonder Woman, justement. Léa, c'est pas Wonder Woman. Léa, elle s'est crue Wonder Woman et elle comprend dans ce livre qu'elle n'est pas Wonder Woman. Et en revanche, c'est un livre que j'ai centré sur une mère et sa fille. C'est pour ça, j'ai pas voulu écarter les hommes, j'ai pas voulu ne pas leur donner un rôle, mais j'ai surtout, en fait c'est l'inverse, surtout voulu donner un cadre à cette histoire et qu'on soit centré sur cette relation entre une mère et sa fille. C'est pour ça peut-être que les hommes paraissent absents, mais ils sont là en filigrane tout au long du livre, parce que Simon est là, j'ai une amie qui m'a dit c'est super parce que Simon il est là dans toutes les pages du livre en fait, il est là sans être là le compagnon, mais il est là tout le temps. Et il y a une scène à un moment où Simon effectivement décrit que c'est lourd cette histoire, qu'il aimerait bien un peu se reposer, qu'il en a marre qu'on lui parle sans arrêt de cette histoire, mais en même temps il admire le courage de Léa et il lui dit. Et cette amie, elle m'a dit, c'est comme si Simon, il disait ça à toutes les femmes, qu'elles sont courageuses. Et j'ai trouvé ça très beau. Et ça non plus, c'était quelque chose qui, c'est un message qui m'a dépassée.
Désespoir d'une mère, je vous cite. Je reçois une carte de vœux, une bonne année, manuscrit au-dessous d'une citation du pape François. Il y est question d'espoir, espoir. Le mot m'accroche, me rappe, m'irrite, c'est étonnant. Pas les faire rechercher. Je m'interroge, réaction primaire. Je tente une médiation avec moi-même, je questionne ma résistance. J'accueille l'émotion, je l'écoute, je la visualise, je la sens. Dans ma gorge serrée, ma mâchoire crispée, je respire plusieurs fois, je relis la citation, j'essaye d'y croire, comme si l'espoir relevait d'une forme de croyance. Je crois en Dieu, je crois en l'espoir, j'ai confiance en l'avenir, je me persuade qu'il sera meilleur. Méthode couée ou aveuglement, là est le blocage. L'espoir induit la déception, espoir déchu, chute. Ne plus espérer se protéger, se calfeutrer. Je déchire la carte. Waouh. Alors, je comprends que personne ne nous aidera, que nous devons trouver tout seul comment aider notre fille, que je devrais trouver seul comment aider ma fille. Et puis plus loin, Simon remarque qu'elle s'agace, qu'elle culpabilise, qu'elle s'en veut de ne pas y arriver. Et là, on a un sentiment de l'écureuil dans la roue.
On est dans le deuxième temps du roman, je crois, quand vous oui. Citez ces passages, parce qu'en fait, il y a trois mouvements dans ce livre. Il y a un mouvement de fuite au départ, puisqu'on est sur une fugue adolescente. Il y a un mouvement ensuite qui est l'errance, une errance qui peut être thérapeutique, qui peut être l'errance d'une mère face à ses doutes, elle ne sait pas comment faire pour aider son enfant. Et puis, le troisième mouvement, c'est le mouvement d'une valse. Parce que j'ai voulu quand même noter, parce qu'une relation mère-fille finalement ne s'arrête jamais, puisqu'elle est construite tout au long d'une vie, et donc il ne pouvait pas y avoir de happy end ou de mauvaise fin sur ce livre. Et donc je me suis dit, en fait, montrons que tout ça va continuer à évoluer, mais dans quelque chose de plus harmonieux, sur le temps d'une valse.
Mesdemoiselles, écoutez cette valse, c'est celle de vos mères. Maman, c'est donner la vie, c'est nourrir en son sein, c'est caresser la joue endormie, c'est perdre le sommeil, c'est faire des bisous papillons, c'est tendre la main, c'est encourager d'un sourire, c'est guider d'une voix douce, c'est aider à se relever, c'est serrer dans ses bras, c'est s'inquiéter et dire ne t'inquiète pas. C'est répéter « mange ta soupe, fais tes lacets, viens à table ». C'est brosser les cheveux sans les tirer. C'est essayer de ne pas s'énerver, c'est connaître les prénoms des copains. C'est organiser les anniversaires, c'est faire des crêpes pour la kermesse. C'est couper les ongles des pieds. C'est faire des shampoings anti-poux au retour de colo. C'est aller au spectacle de fin d'année, c'est acheter les premiers soutifs, les premiers tampons, les premières capotes. C'est faire des gâteaux au chocolat pour guérir les chagrins d'amour. C'est prendre le volant pour aller voir la mer. C'est danser sur grise au milieu du salon. C'est encourager, choyer, écouter, prévenir, consoler, réconforter, soigner, câliner, porter, rassurer, c'est gronder, dire non, punir. Engueuler, priver de dessert, envoyer dans sa chambre, interdire de sortie, confisquer le portable, c'est montrer sa puissance, c'est encourager l'indépendance, c'est accepter ses failles, c'est pleurer sans rougir, c'est ne pas avoir de certitude, c'est continuer à grandir, c'est se faire confiance, c'est faire confiance, c'est renoncer à l'enfant idéal, c'est apprendre à le connaître, c'est se laisser émerveiller, c'est dire « prends ton temps », c'est se mettre sur la pointe des pieds pour l'enlacer, c'est dire « je serai toujours là », c'est dire « je t'aime ». C'est ouvrir les bras.
C'est ça. C'est ouvrir les bras.
C'est ouvrir les bras. Si toutes, mesdemoiselles, vous lisiez ça avant de vous endormir, peut-être que vous pourriez mettre le couvert du petit déjeuner pour rassurer votre maman ou lui apporter un plateau dans son lit le matin. Puis-je dire, Edwige Coupet, est-ce que votre livre, je le répète, doit être lu par les filles pour qu'elles engendrent leur mère, finalement? C'est en tout cas comme ça que je l'ai lu.
C'est ce livre, je voudrais que les femmes qui vont le lire, quel que soit leur âge, pour moi c'est un message à se trouver, à s'épanouir, à être au-delà des carcans, à aller se révéler en tant que mère, mais au-delà et surtout au-delà en tant que femme. Et en fait, ces dernières lignes, c'est pas du tout une charge mentale tout ce que j'ai écrit.
C'est sublime.
Ça dit tout l'amour d'une mère. Et ça dit aussi au-delà tout ce qu'une femme va faire pour se trouver et va donner comme ressource à son enfant pour qu'il se trouve à nouveau, lui aussi.
Et toute cette liste, car c'est encore une liste, c'est aussi un mode d'emploi pour les hommes.
Okay.
C'est-à-dire que pour comprendre la femme, la mère, la charge mentale, et pour ne pas chercher à partager forcément le boulot, parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de savoir à quel moment l'homme peut entrer dans cette masse pour la partager peut-être, et en tout cas pour la vivre à deux.
C'est vrai, et peut-être qu'il faudrait écrire un deuxième roman avec le point de vue d'un père. Et effectivement, parce que l'idée de la charge mentale est quelque chose de évidemment, il faut en parler, mais il ne s'agit pas de partager, en fait. Il s'agit que chacun trouve son rôle. Et je pense qu'effectivement, être père aujourd'hui, être homme aujourd'hui dans notre société, c'est loin d'être évident. Et il faudrait effectivement écrire, maintenant des hommes le font, mais sur leur rôle de père et comment, et c'est brossé quand le père de Gabriel explique sa rencontre avec le psychiatre quand Gabriel est pris en charge, et on voit aussi toute la déconvenue et ce père est démuni parce qu'en fait il veut aider Gabriel en lui disant mais fais attention, ne t'habille pas comme ça. Et Gabriel l'entend comment? Elle l'entend: mon père me voit comme une pute. Mais ce papa a peur pour sa fille et il ne sait pas comment lui dire qu'il l'aime, et elle a besoin de se construire en opposition, et donc du coup les hommes sont quand même un peu présents dans ce livre.
Oui. Et puis alors, on n'en a pas parlé, mais il y a tout le parcours terrible de l'aide sociale à l'enfance, prononcée l'ASE.
Qui ne rime pas comme la haute-seu.
Voilà. Et de la prise en charge pédopsychiatrique qui est assez compliquée et qui rend les parents souvent beaucoup plus seuls. Merci infiniment, Edwige Coupet. Je rappelle votre livre « J'avais oublié la légèreté » aux éditions du Rocher. Merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Alpech et Camille Meyer pour la porte technique. Alors demain, c'est mercredi, nous irons au cinéma avec nos chroniqueurs aguerris. D'ici là, bonne journée, prenez soin de vous et des autres, et je vous embrasse.